Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. La Suède va-t-elle succomber à la vague populiste d'extrême droite qui s'installe de plus en plus en Europe? Le pays vote aujourd'hui pour renouveler notamment son Parlement. Reportage de notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud dans un instant. En Syrie, des dizaines de raids aériens la nuit dernière et la crainte d'une offensive imminente. Nous rejoindrons notre correspondant à Beyrouth, Aurélien Colli. En France, la marche mondiale pour le climat a réuni près de 100 000 personnes dans 130 villes hier, selon les organisateurs. Un sursaut de mobilisation citoyenne constaté dans le cortège parisien par notre reporter Lucas Caltritti, on l'entendra. Et puis la loi pourrait bientôt obliger les entreprises à publier les écarts de salaire en France. Un amendement a été déposé par la majorité à l'Assemblée nationale. Explication à suivre avec Annabelle Grelier. Les bureaux de vote ont ouvert en Suède alors que plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des législatives, des élections régionales et communales aussi. Le parti anti-migrant démocrate de Suède pourrait faire une percée historique. Il est crédité de 18 à 23% dans les sondages. Marie-Pierre Véraud, notre envoyée spéciale à Stockholm, a assisté au dernier meeting du leader d'extrême droite, Jimmy Åkesson, qui a galvanisé une dernière fois ses troupes.
Le cadre est enchanteur au bord du lac Mälaren dans la vieille ville de Stockholm au coucher du soleil. Ils sont plusieurs centaines à avoir répondu à l'appel de Jimmy Åkesson et chantent déjà la victoire. Le héros ne les déçoit pas. La foule exulte quand il lui demande si elle est prête à renvoyer le Premier ministre Stefan Löfven. C'est l'homme à abattre, celui qui n'a rien fait pendant 4 ans et qu'il fait huer, tout comme les médias à l'occasion ou ces bobos qui refusent de voir la réalité, car rien ne va plus en Suède. Les gens meurent en attendant d'être soignés, les voitures brûlent, les groupes criminels pullulent, tout comme la drogue. Les femmes ont peur de sortir la nuit, il n'y a plus d'argent pour les retraités. L'État-providence doit profiter à nos vieux, pas aux demandeurs d'asile, lance Jimmy Åkesson sous les applaudissements, qui redouble lorsqu'il propose d'augmenter les salaires des policiers et d'expulser les étrangers qui commettent des crimes. Ils doivent respecter nos lois, c'est à eux de changer, pas à nous. Ici, ce n'est pas la charia. La foule exulte. En 45 minutes, le discours bien rodé n'a rien oublié de ce qui fait la popularité des démocrates de Suède. Elena est conquise.
Jag tycker det var helt underbart. Det går in i hjärtat. Vi har väntat på en ändring i Sverige helt enkelt.
C'est incroyable, dit-elle, ça m'a vraiment touché au cœur. On attend ce changement avec impatience en Suède. Car c'est bien dans la cour des grands que les démocrates de Suède veulent entrer. Pour ce dernier meeting, Jimmy Åkesson a multiplié les appels envers les conservateurs. Il se dit prêt à gouverner avec cette droite qu'il espère bien dépasser dans les urnes.
Marie-Pierre Véraud, envoyé spécial de France Culture en Suède. Alors qu'en Europe, le camp des souverainistes cherche à s'organiser avec Rome comme épicentre. Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et patron de l'extrême droite italienne, recevait hier Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, avec en ligne de mire une victoire des extrêmes droites aux prochaines élections européennes. À Rome, Olivier Tosseri.
Matteo Salvini, le capitaine comme le surnomment ses partisans en Italie, veut être celui du vaisseau souverainiste en Europe. Il tire à boulet rouge sur celui de Bruxelles et entend bien passer à l'abordage lors des élections européennes en mai 2019. D'ici là, il organise le camp des eurosceptiques face à ses adversaires, ceux du camp des progressistes rassemblés sous la bannière d'Emmanuel Macron. En recevant à Milan à la fin du mois d'août le Premier ministre hongrois Viktor Orban, Matteo Salvini annonçait vouloir changer l'Europe. Cette fois, il déclare son intention de la sauver en s'affichant au ministère de l'Intérieur à Rome avec Steve Bannon, l'ex-conseiller du président américain Donald Trump. L'Europe, ils sont en train de la saborder, a déclaré Matteo Salvini. L'esprit européen, l'esprit d'une communauté rénovée, nous voulons la sauver. Nous travaillons pour être le premier groupe parlementaire européen. C'est la mission que s'est fixée aussi Steve Bannon en fondant une force politique baptisée le Mouvement. Il espère que ce parti rassemblera les eurosceptiques, les souverainistes et les populistes du continent pour constituer un super groupe avec au moins un tiers des eurodéputés. Pour Steve Bannon, l'Europe est à la veille d'une révolution populiste. L'Italie est le cœur battant de la politique moderne, ne cesse-t-il de répéter. Si ça marche là-bas, ça peut réussir n'importe où. Avec Matteo Salvini, il est persuadé que l'actuel projet européen est condamné à faire naufrage.
Olivier Tosseri. En Syrie, il s'agit des frappes aériennes les plus intenses depuis un mois, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Elles ont eu lieu cette nuit, des dizaines de frappes menées par la Russie et par le régime de Damas, selon l'ONG, sur la province d'Idlib, dernier fief insurgé, alors qu'un compte à rebours semble enclenché pour une vaste offensive terrestre, faisant craindre un désastre humanitaire pour ses 3 millions d'habitants. À Beyrouth, Aurélien Colli.
Bombardement de l'aviation russe, largage de barils d'explosifs et tirs d'artillerie par le régime syrien, la pression monte encore sur le dernier fief rebelle. Mais si certaines sources affirment que sur le terrain, des troupes d'élite syriennes ont commencé l'offensive, impossible de vérifier l'information. Car certes, Damas voudrait aller vite, ne pas s'embarrasser d'un processus politique, mais l'allié russe, lui, est beaucoup plus prudent. Si Vladimir Poutine a rejeté tout cessez-le-feu proposé par la Turquie, pas question de passer en force et de rompre définitivement avec Ankara. Ankara qui soutient une partie des rebelles et qui reste surtout indispensable à Moscou pour préserver son processus d'Astana, ne pas gagner militairement seulement, mais aussi politiquement. Les Occidentaux le savent, États-Unis en tête. Contrairement à ces derniers mois, Donald Trump a insisté sur la volonté américaine de rester en Syrie. Plus discrètement, son administration menace aussi d'intervenir en cas d'offensive syrienne sans accord avec la Turquie. De quoi redonner du poids au président turc, du temps surtout, pour tenter de régler la question de la présence djihadistes dans la province d'Idlib, avec cette fois le soutien américain qui lui manquait.
Une parade militaire géante aujourd'hui en Corée du Nord pour fêter son 70e anniversaire. Le régime de Pyongyang tient à montrer sa force de frappe. Des centaines de camions transportant des milliers de militaires se sont assemblés dans la capitale. Une mobilisation mondiale pour réclamer des mesures d'urgence contre le changement climatique. Près d'un millier de rassemblements ont eu lieu hier un peu partout dans le monde. À Paris, 50 000 personnes selon les organisateurs, un peu moins de 20 000 selon la police se sont rassemblées. Lucas Scalfiti était dans le cortège marqué par un sursaut citoyen.
Sylvain est accompagné de sa sœur. À deux, ils ont quatre enfants. Il est inquiet pour le monde qu'il va leur laisser et sur sa banderole.
Dis maman, c'était quoi la banquise ? Et au verso, c'est marqué Manhattan et Saint-Malo et la baie de Somme. Et la réponse du papa, ça va être tais-toi et nage, à cause de tout ce qui va disparaître dans les 100 ans qui viennent. Quoi.
C'est important pour vous que ça vienne des citoyens aujourd'hui ?
Ouais, c'est important qu'on voit combien on est et quel poids on peut représenter et avec quelle force on peut réclamer des choses au gouvernement.
Parce que là, vous visez directement le gouvernement ?
Bah, disons que nous, on est des colibris, on fait notre part de colibris, mais il y a un moment, il va falloir s'occuper des éléphants pyromanes. Les plus gros pollueurs, nous les petits colibris, on peut pas faire grand chose contre. Et on attend du gouvernement qui s'occupe de cela.
Donc il y a le gouvernement français, mais il y a aussi les autres gouvernements.
Bien sûr. On parle souvent du couple franco-allemand pour peser sur l'Europe. Et bien qui pèse sur l'Europe. Et puis l'Europe montrera l'exemple pour le reste du monde.
Problème, les politiques au pouvoir ne font pas de l'écologie un thème central. Benoît Hamon, candidat malheureux à la dernière présidentielle, est présent un peu plus loin dans le cortège. Pour lui, si les politiques n'arrivent pas à s'emparer de cette question, c'est parce qu'elle n'est le monopole de personne.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Si elle était le monopole.
Personne ne l'approprie pour le coup.
Oh, dans le débat politique, si, quand même. Moi, j'ai ma campagne présidentielle, elle s'est faite beaucoup sur cette question-là.
Oui, mais sans être méchant avec vous, elle n'a pas été réussie.
Oui, mais je pense aujourd'hui que, dans l'ordre des priorités, avant, on mettait toujours croissance, emploi, voyez-vous. Et maintenant, je pense que cette hiérarchie-là va changer.
Quant à Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie démissionnaire, il n'était pas présent, mais a salué tous les manifestants sur Twitter. Il leur demande de continuer à faire entendre leur voix.
Lucas Scalfiti pour France Culture. Les grandes entreprises pourraient être obligées de publier les écarts de salaire après un amendement déposé, amendement au projet de loi Pacte pour la croissance des entreprises. Ce sont les députés de la majorité qui font cette proposition, Annabelle Grelier.
Ils sont 48 parlementaires à avoir co-signé cet amendement, dont le député LRM Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot. Un amendement qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, rappelle-t-il, qui souhaitait faire publier par les grandes entreprises un ratio d'équité mesurant l'écart de rémunération entre le dirigeant et les salariés. Cet amendement prévoit donc que soit rendu public chaque année la rémunération moyenne, la rémunération médiane, ainsi que la différence entre la rémunération la plus haute et celle la plus basse. Il s'agit, dit le député, de connaître l'écart qu'il y a entre les 25% les moins payés d'une entreprise et les 25% de dirigeants qui gagnent le plus, certains excès étant intolérables, estime-t-il, citant l'exemple du groupe Carrefour, entreprise du CAC 40, où l'écart se situe de 1 à 500. Si le patronat français risque de ne pas trouver la mesure à son goût, elle n'a pour autant rien de coercitif. Mais elle ouvre, c'est sûr, une nouvelle ère, celle de la transparence, et par conséquence, pose la question morale du partage des valeurs. Car depuis 10 ans, les écarts de salaire dans les grandes entreprises françaises ont augmenté de près de 20% et rien n'a pu éviter cette tendance qui nuit à la cohésion sociale, estime l'aile gauche de la majorité parlementaire. La mesure en tout cas permettrait à la France de prendre le pas dans cet exercice nouveau. Les États-Unis la pratiquent déjà, le Royaume-Uni vient de le mettre en œuvre quand les Scandinaves l'ont adopté il y a longtemps. En Norvège, on peut même connaître en un clic le salaire de son voisin.
La photojournaliste Véronique de Viguerie remporte le Visa d'or, le prix le plus prestigieux du festival Visa pour l'image à Perpignan. La française est récompensée pour sa couverture de la guerre au Yémen. C'est la première fois en 20 ans qu'une femme remporte cette distinction. Soleil dominant aujourd'hui presque partout, sauf sur la Gironde, avec des orages attendus aujourd'hui. Temps globalement dégagé le reste de la journée. Les températures affichent 17 à 26 degrés ce matin. Cet après-midi, 20 à 27 degrés du nord au sud.